deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire titrée « Quand l'Histoire fait scandale ». Aujourd'hui, le documentaire signé Johanna Grudzinska et Anne Fleury. Pendant toute la semaine, nous nous intéresserons à la façon dont des ouvrages d'histoire, des archives, ont pu faire sans scandale à partir du moment où elles ont été révélées au grand public dans une société. Hier, nous vous parlions de la vie de Jésus d'Ernest Renan, publié en 1863, mais également du massacre de Kiaroy, qui fait encore débat aujourd'hui entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Demain, nous révélerons avec Robert Paxton ce qu'il y avait de révolutionnaire ou d'important dans l'ouvrage qu'il a publié au début des années 70, La France de Vichy. Et aujourd'hui, nous allons traiter dans le documentaire de ce matin, signé Johanna Grudzinska et Anne Fleury, du cas de Yann Gross et de son livre « Les voisins », qui est sorti au début des années 2000 et qui a révélé à l'opinion, et en particulier en Pologne, combien un massacre qui avait été supposément commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale était en fait un massacre de juifs, était en fait le fait des voisins polonais de ces communautés juives. C'est ce que racontait Yann Gross, mais aujourd'hui son livre est contesté, mis en difficulté par le nouveau gouvernement polonais, et c'est ce que raconte le documentaire que vous allez écouter jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, avec les témoignages et les analyses de Pavel Dobrosielski, d'Anna Biconte, de Yann Gross soi-même, de Jean-Charles Chourek, de Krzysztof Ciszewski, de Pavel Marchewicz et de Elżbieta Janiczka.
Ce livre et tout mon travail sur la mémoire collective est né de mon étonnement. Mon étonnement de voir à quel point cette affaire interpelle encore aujourd'hui. Et comme c'est important pour les Polonais. Jan Gross, historien, publie un livre sur le passé de la Pologne, et non seulement les spécialistes engagent un débat, mais en fait tout le monde. On parle du livre au marché, aux infos du matin, on publie à son sujet dans les journaux quotidiens.
Les voisins de Yann Gross, écho et dissonance.
Pourquoi devrions-nous nous intéresser à ce que des gens ont fait à d'autres gens il y a 70 ans? On a nos propres problèmes. De là vient mon étonnement. Tout le monde en débat, tout le monde s'y intéresse.
Paweł Dobrosielski, ce jeune universitaire polonais étonné, vient de publier un essai intitulé « Dispute autour de Gross » qui porte aussi un sous-titre « Les problèmes des Polonais avec la mémoire juive ». Oui, le pays connaît une douloureuse ligne de fracture depuis la publication en l'an 2000 du livre « Les voisins » de Yann Gross qui raconte le meurtre de la population juive d'un village par sa population polonaise en 1941. Par la suite, Yann Gross a publié d'autres livres sur le comportement des Polonais envers leurs voisins juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans tout le pays, y compris dans la diaspora, jusque dans ma famille qui est en partie celle de Yann Gross, les disputes font rage. On interroge les chiffres, les témoignages, la bataille mémorielle est violente. Les patriotes défendent une histoire dans laquelle les Polonais sont innocents, victimes de la barbarie nazie et héroïques dans leur résistance contre l'occupant. Et leur vision réconfortante l'emporte sur le courant qui se confronte à l'antisémitisme des Polonais dans l'histoire. Depuis l'accession du parti Droit et Justice au pouvoir, le livre « Les voisins » et son auteur sont la cible du gouvernement. Yann Gross, parmi d'autres chercheurs, pourrait se voir retirer ses distinctions honorifiques pour outrage à la nation. Et le gouvernement légifère contre la liberté d'expression concernant la participation des Polonais dans la destruction des Juifs. Yann Gross et ceux qui continuent à travailler malgré tout nous racontent la jeunesse du livre « Les voisins » et la portée d'un retournement historiographique majeur et aujourd'hui fragilisé.
Le livre de Yann Gross, Les voisins, est un livre qui raconte ce qui s'est passé le 10 juillet 1941 dans une petite ville de nord-est de la Pologne, où
Anna Biconte,
de la façon que raconte Gross, qui est une façon provocative, la moitié de la population a tué l'autre moitié de la population. Ceux qui tuaient étaient polonais, ceux qui étaient tués étaient aussi des polonais, mais en plus ils étaient juifs. Ça s'est passé avec une certaine aide des Allemands, mais une petite aide. Ils l'ont planifié, ils l'ont dit aux polonais qu'ils peuvent tuer. Quelques Allemands étaient dans la ville, mais ce sont les voisins polonais qui ont tué leurs voisins juifs. Les jeunes hommes et le vieux rabbi ont été tués avant 40 personnes avec des haches, un par un. Et après, quand il y avait seulement des vieilles femmes, des jeunes femmes enceintes avec des enfants, les familles comptaient souvent 6-8 enfants. Et ils ont passé toute une journée au marché, où il faisait une chaleur épouvantable, il ne recevait pas de l'eau, et quand il était déjà complètement humilié, enfin les femmes étaient violées, on battait les gens, après toute une journée comme ça passée dans la chaleur, on les amenait dans une grange, où déjà ces 40 personnes étaient avant tuées, donc ils ont vu les corps tués. Et puis on a mis le feu à la grange et ils sont tous brûlés.
Et c'est un épisode qu'on ne peut pas attribuer en circonstances.
Jan Gross.
Un épisode dans lequel il y a un grand nombre de gens qui font un effort délibéré pendant toute une journée. Alors, c'est un temps qui est assez long. Alors, si tu veux, dans le contexte de phénoménologie de pogrom, c'est ce qui se passe. C'est une violence d'espèce naturelle, comme un tornado qui passe et tue tous ceux qui sont là, sur le chemin de... Ici, ce n'est pas comme ça. C'est un phénomène délibéré, on cherche, il y a un effort de les trouver tous. Ça m'a choqué. Et puis, naturellement, l'échelle de cette violence, le fait qu'il y en a... il y a une discussion au sujet de... Non, bon, mais ce sont... En effet, il y a un effort de tuer toute la population juive de ce village, ça veut dire... à peu près 1600 personnes.
Avant l'ouvrage de Jan Gross, il y a eu 2-3 grands débats en Pologne dans les années 80.
Jean-Charles Chourek.
Le premier débat, qui a duré 10 ans et qui a peut-être été plus connu en Occident qu'en Pologne même, a été le débat autour du Carmel d'Auschwitz. Ça s'est terminé en 94 avec le départ des Carmélites sur l'injonction de Jean-Paul II. Le deuxième débat, ça a été un débat public autour du film de Lanzmann, de Shoah. Et en particulier autour, et surtout, uniquement, autour des... moment polonais de Shoah. Et le troisième moment, ça a été le fait qu'un professeur de littérature qui s'appelait Jan Błoński a écrit un article dans un hebdomadaire catholique polonais qui s'appelait et qui s'appelle encore Tygodnik Powszechny, où il a écrit « Pauvre Polonais regarde le ghetto » qui faisait référence à un poème du poète Czesław Miłosz qui avait écrit un poème en 1943 « Pauvre chrétien regarde le ghetto » sur ce qu'on pourrait appeler allait devenir la culpabilité polonaise à l'égard de ce qu'il voyait concernant le sort des Juifs. Et ça a créé une grande polémique auquel ont répondu un certain nombre de gens, mais ça a fait déjà l'effet, ça a eu l'effet d'une prise de conscience dans une partie des élites polonaises. Donc voilà, ça c'est une montée de réflexion sur quelque chose qui était refoulé, oublié, mais présent quand même. Pourquoi présent ? Parce qu'il y a eu un grand exode des Juifs dans les années 60, en 1968. On ne peut pas dire que ça soit complètement absent, que le thème juif ait été absent de la société polonaise, même si la question de la Shoah, la question du destin des Juifs sous l'occupation allemande a été occultée. Occultée par la tragédie polonaise elle-même. Et donc arrive ensuite le changement de régime, et avec le changement de régime, une interrogation sur le passé juif. Il y a un grand intérêt pour le passé juif. C'est dans ce contexte que naissent les voisins, l'ouvrage de Jan Gross. lequel lui-même avait été précédé par d'autres travaux d'Jan Gross, déjà dans le milieu des années 80. Jan Gross s'était posé cette question de l'antisémitisme pendant l'occupation. Il a tout le temps été un précurseur.
Krzysztof Czyżewski, vous êtes l'éditeur historique du livre Les voisins de Jan Gross, que vous avez publié donc en l'an 2000. Comment avez-vous eu accès aux manuscrits des voisins ?
La première fois que je me suis heurté à l'histoire de Jedwabne, que raconte le livre Les voisins, c'était dans le cadre de l'école Au-delà des frontières. C'est un programme que nous avons monté avec notre fondation, dont le but est de construire des ponts entre les pays d'Europe centrale et orientale. Nous abordons aussi l'héritage mémoriel difficile autour de ces frontières, qu'on ne pouvait évoquer jusqu'il y a peu. Jan Gross était un de nos professeurs à l'école, et c'est pendant un de ses cours à la fin des années 90 qu'il nous a parlé de l'histoire dont il s'occupait, celle de Jedwabne.
Quel était le contexte en fait ? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de le publier ou est-ce que c'est lui qui vous l'a proposé ?
Nous avons pris la décision ensemble de publier le livre. Je ne me souviens pas que nous ayons douté un seul instant de le publier, et ce, dans les plus brefs délais. Nous avions conscience qu'il fallait faire tout notre possible pour que le livre paraisse d'abord chez nous, en polonais, pour initier ce débat ici, en Pologne, avant que le livre ne paraisse aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. Donc, on a publié le livre dans l'urgence, en quelques mois. Entre le dépôt du manuscrit et sa publication en mai 2000, il s'est écoulé très peu de temps. Je voudrais ajouter que nous l'avons d'abord tiré à 2000 exemplaires. Et par la suite, nous avons mis le livre gratuitement en ligne. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de téléchargements. On a décidé qu'on ne voulait pas gagner de l'argent avec cette publication, que ça relevait du domaine public. C'était notre décision la plus importante en ce qui concerne la distribution du livre, le mettre en libre accès sur Internet. Ensuite, en 2008, on a publié une version améliorée. Mais somme toute, on n'a pas tiré plus de 20 000 exemplaires des deux livres.
Więc taki jest aspekt tej sprawy, plus oczywiście uruchomiliśmy od samego początku na naszej stronie internetowej.
On a aussi ouvert une base de données sur la page internet qui rassemblait tous les témoignages sur l'affaire de Jedwabne. Et les premières années, c'était la source d'information la plus importante pour le monde entier.
Można było śledzić tę debatę.
On pouvait suivre pas à pas ce débat dans plusieurs langues
i w niej uczestniczyć.
Et y prendre part.
Au moment de l'écriture des voisins, où est-ce que vous étiez physiquement, Jan Tomasz Gross?
C'est compliqué. Vous savez, parce que j'habitais aux États-Unis, alors j'étais à New York, mais le témoignage qui m'a inspiré d'écrire le livre, c'est un texte que j'ai trouvé en Pologne, à Varsovie.
De quel témoignage s'agit-il ?
On parle de témoignage de Wasserstein, de témoignage qui commence le livre. J'ai trouvé le texte et c'est à Varsovie, 3 ou 4 ans après que je l'ai lu pour la première fois, que je me suis rendu compte que son contenu vraiment reflète l'histoire qui s'est passée là-bas. Quand je me mets à écrire le livre, alors la Pologne est déjà démocratique et libre pour au moins une dizaine d'années. On est en 1999. une vie formidable, démocratique, politique en Pologne. Ça s'est passé très vite parce que les archives et la documentation de cette affaire est assez mince. Ce sont deux procès qui ont eu lieu en 1949 et puis 1953, je pense. Alors, mon contact avec les voisins, si vous voulez, c'est la Pologne. Mais puis, je vais me mettre au travail quand je reviens en Amérique.
Les témoignages des rescapés juifs et même des témoignages de certains Polonais ont été déposés à l'Institut historique juif de Varsovie jusqu'au milieu des années 50 pour ce qui concerne la masse de ces témoignages sur leur sort pendant la guerre. C'était l'objectif de ce travail de la commission historique de l'Institut historique juif de Varsovie. Il y a dans ces témoignages des traces tout à fait évidentes de ce qui leur est arrivé venant de la part d'un certain nombre de Polonais. Donc la question des rapports entre Juifs et Polonais est déjà présente dans ces témoignages. Ces témoignages n'ont jamais été enfouis particulièrement. On pouvait y avoir accès simplement durant la période stalinienne, c'était difficile. Après la période stalinienne stricto sensu dans les années 55-89, on pouvait y avoir accès. Mais plusieurs milliers de témoignages, il y a une sorte de problème lié à la quantification des témoignages. Et ça a pris vraiment son essor après la chute du communisme. Pas seulement à cause de la chute du communisme, ça a pris aussi son essor grâce à la numérisation. Il y a une donnée technique qui est présente, c'est que ces témoignages sont numérisés souvent et on peut donc beaucoup plus facilement les étudier, les lire.
Et Yann, il avait un témoignage de Shmuel Wasserstein. Il raconte d'une façon, c'est comme ce qu'il raconte, c'est comme si c'était une situation de la Bible, enfin, que c'est tout ce qui se passe, c'est une orgie de sang, enfin, ça semble pas très vrai. Alors je crois que on peut croire au livre de Gross, pas parce qu'il cite le témoignage, mais qu'il a cru à ce témoignage. Et après, il a écrit un livre où il le décrit de telle façon que nous commençons à comprendre ce qui se passait, oui. Donc, il avait peu de matériaux d'archives. Et je pense que c'est question de courage, mais aussi question de viedza, du savoir, de connaissance. S'il n'était pas préparé, il n'aurait pas lu plein de choses sur l'histoire, sur le Holocauste, sur les relations polonais-juives, il n'y aurait pas pensé avant, il n'aurait pas pu penser que le témoignage de Shmuel Wasserstein est un témoignage vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé.
On a parlé, il y a beaucoup de témoignages et de rapports des gens qui travaillaient dans l'État clandestin polonais, à propos de l'antisémitisme de la population polonaise pendant la guerre. Et en effet, ça, je le savais avant. Si tu lis la presse clandestine, par exemple, un tas de textes antisémites là-bas. Et la presse clandestine, naturellement, il y avait une complète liberté de la parole, parce que on était clandestins, il n'y avait personne qui vous donnait la permission de le faire, et on écrivait ce qu'on voulait écrire. L'autre chose que je devrais dire aussi, que en écrivant, avant que je me mets à écrire, je me mets en contact avec les juifs qui sont descendants de la communauté juive de Jedwabne, de ce petit village où le meurtre a eu lieu. Et dans mon effort de trouver des témoins, et je trouve quelques personnes, spécialement une, qui était là-bas, appréhendé par les gens, presque tué. Il était un jeune garçon dans ce temps-là. Je le cite dans le livre. Mais il y a des mois, en effet, parce que je dois voyager en Israël pour parler avec ce monsieur. Je parle à New York avec un rabbin qui vient de Yedvabne, mais a quitté Yedvabne juste avant la guerre. Alors il me raconte l'histoire de la communauté juive avant la guerre à Jedwabne. Alors, quelque chose se passe encore. Ce n'est pas seulement lecture des documents. Il y a des gens là-bas, des gens qui sont vivants. Et c'était très difficile parce que c'est une histoire affreuse. Alors, l'écriture, c'est un grand effort. Et à cause de ça, je pense aussi, le livre est composé des petits chapitres, en effet. Il était très difficile pour moi de s'engager avec le matériel pour une longue durée, si tu veux. Et c'est reflété dans la forme du récit que j'ai produit.
Jan Gross fait une découverte majeure, alors que lui-même ne s'y attendait pas. Il voit le texte de Wasserstein, de ce témoin qui est présent dans le livre Les Voisins, et ce n'est qu'au bout de 4 ans qu'il se rend compte que quelque chose de grave s'est passé là.
Jean-Charles Chourek.
Et là, il découvre Les Voisins, le massacre d'une partie de la population par une autre, et ça engage un débat national, précisément pour ces raisons de refoulement, c'est que la population polonaise ne s'imaginait pas qu'elle, à la fois doublement agressée par les nazis d'un côté, par les soviétiques de l'autre, au même moment, en septembre 1939, se considérant elle-même comme le Christ des nations et une population innocente, que cette population-là puisse être aussi ou peut-être également assassine. Ça, c'est quelque chose qui était impensable dans l'opinion polonaise, y compris dans l'opinion des élites. Donc, il y a là une déchirure historiographique profonde qu'opèrent Les Voisins.
Et ce qu'on trouve, c'est que dans la société polonaise, dans ce temps-là, pendant la guerre, sous l'occupation allemande, les gens sont prêts à détruire leurs voisins juifs.
Jan Gross.
C'est ce qui est vraiment extraordinaire pour quelqu'un qui s'occupait de l'histoire de l'occupation, comme moi. Ah, je n'ai pas vécu pendant la guerre, je suis né après la guerre, mais je m'occupais de l'histoire de l'occupation pendant des années déjà, j'ai écrit des livres, et je ne me rendais pas compte du fait que contribuer à la tuerie des Juifs, les dénoncer aux Allemands, ou les tuer directement, ce n'était pas des faits qui aurait lieu seulement clandestinement, si tu veux. C'est joué ouvertement dans l'espace public, à divers moments, dans diverses situations. Et c'est et ben ça, c'est une révélation. C'est...
Pour nous, la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment le temps où les Polonais étaient les meilleurs. Enfin, nous avions la plus grande armée clandestine, nous n'avions jamais de gouvernement collaborationniste, enfin c'est le moment de notre gloire et aussi le moment où les Polonais étaient les grandes victimes de la guerre. Donc se retrouver dans une autre position,
Anna Biconte,
c'est extrêmement difficile de penser à soi-même qu'on est en même temps victime et qu'en même temps qu'on a perpétué des crimes, c'est très très difficile. Et je me rappelle une rencontre d'historiens où il y avait peut-être 200 historiens, dont plein de professeurs qui se sont rencontrés pour parler du livre de Gross. Et il y avait plein de gens qui disaient que c'est écrit par un sociologue, que c'est pas bien écrit, qu'il n'y a pas assez de faits, etc. Mais c'était pas, je ne sais pas, de l'antisémitisme ou pour nier, mais c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à y croire. Et je crois que les gens ont compris, enfin... J'ai vu, c'était comme une salle de psychothérapie, je me rappelle. Et que c'était quelque chose que les gens avaient à peine à comprendre, mais essayaient de comprendre.
Paweł Marciewicz, quand le livre est paru, Les Voisins, est-ce que vous avez eu un moment où vous avez été sous le choc, pas seulement du contenu, mais peut-être aussi dans une interrogation par rapport à la méthode historique employé dans le livre.
Pamiętam moje pierwsze wrażenie z lektury tej książki. No niewątpliwie
ma première impression à la lecture des voisins était tout de suite double.
O zbrodni na Żydach popełnionej.
D'une part, je voyais bien qu'il disait là la vérité, que ces meurtres avaient réellement eu lieu et qu'il en avait rassemblé les preuves.
Języka używanego przez autora.
Mais d'autre part, j'étais extrêmement critique sur le style et la manière qu'il avait de transmettre ses vérités historiques. Ces commentaires étaient écrits sous l'emprise de l'émotion. D'abord, un certain nombre de généralisations. Ensuite, un langage trop provocateur. En fait, trop publiciste ou trop journalistique. Alors à la fois ça a donné une résonance très grande au livre parce que le style permettait justement la réception du livre par des non-initiés, mais des rejets également extrêmement forts.
Jak dzisiaj myślę o bilansie tej książki, kolejnych książek Grossa, to książek Grossa zastanawiam się, czy ten publicystyczny język, bardzo takie ostre sformułowania, one zrobiły więcej dobrego, to
znaczy, finalement, czy one rzeczywiście otworzyły tę debatę? Et des livres suivants, czy też je me demande aujourd'hui quel est le bilan. Est-ce que réellement c'est un travail qui a ouvert des perspectives historiographiques ou est-ce que c'est un travail qui a rendu la réception de cette histoire impossible pour une partie de la population?
C'est un livre qui est d'une certaine manière facile à lire. Il est petit, et c'est une histoire dramatique naturellement. Et alors, il est lu par les étudiants. Je sais que ce n'est pas seulement les historiens, en Amérique en tout cas, qui s'en servent dans leur cours. Alors, c'est un livre qui existe. Mais l'historiographie a découvert, en général, le fait que l'histoire de la Shoah, ce n'est pas seulement l'histoire qui se joue entre Allemands et Juifs, mais que c'est une histoire qui se joue entre les Allemands, les Juifs, et les sociétés locaux dans l'Europe occupée, qui sont des médiateurs, qui de diverses manières participent dans le processus. Et dès le commencement, la réponse à ces révélations était très variée. Par exemple, c'est le fait que en juillet 2001, pendant le 60e anniversaire de ce meurtre, le président de la Pologne vient au site du meurtre et prononce un discours formidable, fantastique. L'État polonais a fait un effort de se débarrasser d'un monument construit là-bas, dans les années 90, il me semble, où on pouvait lire que c'était les Allemands qui ont tué les Juifs. Alors ça, c'est effacé, si tu veux. Et un nouveau monument est construit, en collaboration avec la communauté juive. Il n'y a pas d'inscription là-bas qui dise que ce sont les Polonais qui ont tué leurs voisins, mais le mensonge d'attribuer le meurtre aux Allemands, il n'y est plus. Puis, l'affaire qui se passe, c'est que l'Institut de la mémoire nationale, cette institution très forte qui est créée en Pologne, va conduire une enquête sur le meurtre d'Edward Warnecke. Et c'est l'État qui le fait. Et les conclusions ne sont pas ambiguës. Ah, c'est fantastique.
Paweł Machcewicz, vous avez occupé une place importante dans l'historiographie de la Shoah en Pologne, puisque vous avez d'abord officié à l'Institut de la mémoire nationale au début de l'institution, je crois, puis dirigé pendant un temps et un temps seulement le musée de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez quand même eu deux postes très, très importants. Ces deux expériences ont été très différentes pour moi. À l'Institut de la mémoire nationale, quand j'ai commencé là-bas en l'an 2000, j'étais un jeune historien. Et l'idée de l'Institut national de la mémoire était surtout de s'occuper en fait du communisme, de la police politique et de toute la mémoire sous le communisme.
w Niemczech. Tymczasem okazało się w roku 2000 po publikacji książki Anna Tomasza Grossa.
Mais à la parution des voisins, il est apparu à tout le monde que la vraie question, le vrai problème, c'était ça.
Gdy rozpoczęła się debata wokół zbrodni w Jedwabnem, to jako historyk.
Après la publication du livre, en tant qu'historien et en tant que directeur de l'Institut de la Mémoire Nationale, j'ai dû ou j'ai décidé de mener une enquête approfondie sur la ville de Jedwabne et sur les villes aux alentours dans lesquelles les Polonais avaient donc commis des crimes contre les Juifs. Et ça a été jusqu'aujourd'hui l'expérience la plus difficile professionnelle de ma vie, puisque les émotions de la société, les émotions sociales et les émotions des gens de ces villes étaient telles qu'elles rendaient notre travail très difficile.
Pracę moją i moich kolegów w instytucie.
Ça a été pour moi une leçon de vie et de travail extraordinaire que de voir à quel point une thématique aussi controversée et qui suscite autant d'émotions peut rendre le travail de l'historien effectivement complexe et passionnant, mais aussi très, très lourd.
Efektem tych prac, które ja koordynowałem, było opublikowanie.
Le résultat de cette grande enquête a été la parution de deux tomes d'à peu près 1000 pages, qui étaient aussi bien le rassemblement des témoignages que les analyses historiques à leur sujet. La chose la plus importante, c'est que dans le livre de Gross, le rôle des Allemands, la responsabilité des nazis, n'est pas considérée comme importante dans l'accomplissement de ce pogrom et des pogroms dans les villages
powojennych procesach. Była mowa o tym, że tego ranka przybyła do miasteczka grupa gestapowców i oni właściwie wydawali rozkazy, mówili, co należy robić.
Or, notre enquête a montré que le scénario était toujours le même, celui de Jedwabne et celui des villes aux alentours.
Dzieliło tylko kilka dni.
C'est d'abord un groupe de gestapistes qui arrive dans le village et qui excite la population sur le fait que les Juifs sont communistes et que c'est de leur faute le communisme. C'est pour ça qu'ils leur font déboulonner la statue de Lénine, rassembler et ensuite se faire massacrer. Ils écrivent le scénario. Mais c'est les Polonais qui accomplissent les meurtres avec une haine dont on ne saurait tenir les Allemands pour responsables.
Jeszcze chcę powiedzieć, że jestem dumny z tego, jak polskie państwo zmierzyło się wtedy. Ze sprawą Jedwabnego.
Je suis très fier du rôle que l'État polonais a joué à l'époque, qui a été exemplaire, parce qu'on nous a donné les moyens et la liberté de mener de manière absolument indépendante et libre notre travail. Sans en nous mettre aucune pression et sans que ce soit influencé par quiconque.
Wracając do pani pytania, jak mogę porównać te dwa doświadczenia pracy w Instytucie Pamięci Narodowej.
Ces expériences sont extrêmement différentes du fait de l'état politique de la Pologne entre ces deux moments, le moment des débuts de l'Institut de mémoire nationale et de cette enquête qui a été menée, et puis le moment de la mise en place du musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdańsk, où la droite était déjà au pouvoir.
Et
ça a été un moment de lutte permanente entre le gouvernement et moi-même. J'ai dû me battre pendant un an pour que le musée puisse être ouvert au public.
Wtedy, kilkanaście lat temu, Polacy byli gotowi się zmierzyć z tą potworną prawdą o zbrodni w Jedwabnem, wcześniej nieznaną. W tej chwili jest ogromny nacisk.
Il y a 20 ans, au moment de la sortie du livre et au moment de tout ce qu'on a fait nous à l'Institut de la Mémoire Nationale, le pays était prêt à se confronter aux pages sombres de son histoire.
Kartami polskiej historii, które
alors qu'aujourd'hui, ils ne veulent entendre parler que d'héroïsme et que de la Pologne héroïque et veulent minimiser, rendre totalement marginales les expériences difficiles que les Polonais ont eues pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Sens tej zmiany polega na tym, że wprowadza się zagrożenie więzieniem, karą 3 lat więzienia.
La loi de 2016 punit d'un emprisonnement de 3 ans toute personne qui accuse les Polonais d'avoir une responsabilité ou une complicité avec les crimes nazis commis pendant le Troisième Reich.
Czyli krótko mówiąc, w tej chwili być może Jan Tomasz Gross mógłby być objęty
Selon cette loi, Jan Tomasz Gross pourrait complètement être condamné et emprisonné à cause de son livre Les voisins, à partir du moment où il ne serait pas considéré comme un livre pédagogique, puisque la loi exempte les ouvrages scientifiques et artistiques. Mais si on considère que c'est un essai, par exemple critique, ou un essai journalistique, alors il peut tomber sous le coup de cette loi et être emprisonné.
Ja też, ja mam pełną świadomość, na przykład udzielając wywiadów
Moi aussi, je peux être emprisonné en donnant par exemple un entretien à une radio étrangère dans lequel je parle de la responsabilité des Polonais dans les pogroms commis sur le territoire.
Prawo za skrajnie szkodliwe dla Polski, niszczące polską reputację.
Mais je considère que c'est ma responsabilité de continuer à parler. Je trouve cette loi absolument caduque. Et absurde. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est lors de son passage à la Chambre, les députés disaient ouvertement que grâce à cette loi, ils allaient pouvoir emprisonner Jan Tomasz Gross. C'est une loi qui a été fabriquée quasiment pour l'emprisonner.
Pas l'emprisonner, mais pour avoir. L'instrument pour
oui, l'instrument
les...
contre lui.
Yeah, contre lui.
Un instrument légal contre lui.
Il y a 20 ans, au moment de la sortie des voisins, Anna Bikont, journaliste et essayiste, décide de mener l'enquête à Jedwabne. Elle passe plusieurs mois dans la petite ville régulièrement assiégée par les médias. Elle en tire un récit, Le crime et le silence, dans lequel les souvenirs superposés des habitants forment une mémoire collective.
Je suis allée, pas pour faire une enquête, parce que je trouvais le livre de Gross excellent, mais pour faire un travail de journaliste, de reportage. C'est-à-dire, je voulais écrire qu'est-ce qui se passe dans une ville où le silence régnait pendant 60 ans, mais tout le monde dans la ville savait bien ce qui se passe. Et tout d'un coup, il y a plein de télévisions, de journalistes qui viennent, qui demandent, qui sont avec les caméras au centre de la ville. Et comment se sentent les gens? Qu'est-ce qu'ils ont à dire après ces 60 ans? Et quand je suis allée là-bas, cette expérience était tellement horrifiante, je dois dire, que j'ai commencé à... Premièrement, ça m'a aidé à s'imaginer ce qui s'était passé 60 ans auparavant, parce que les gens à Jedwabne détestaient les Juifs qui étaient morts il y a 60 ans. Oui, ça m'a fait un tel choc que j'ai commencé à travailler, enfin c'était 4 ans de travail et un gros livre, oui. J'ai tout de suite compris que ce n'est pas le problème des criminels, que ce ne sont pas des criminaux qui ont aidé les Allemands à tuer les Juifs, ce qu'on peut toujours s'imaginer dans chaque nation, dans chaque pays, enfin dans chaque... Mais que ce sont vraiment les voisins du village, des gens complètement normaux, enfin, qui connaissaient ces gens. Jedwabne, c'était une région très pauvre, donc il n'y avait pas d'école juive, parce que les juifs aussi étaient très pauvres, et il allait dans des écoles polonaises, donc c'était vraiment des amis de classe qui, les uns avaient tué les autres. Oui.
Est-ce que vous diriez que Les voisins est un livre d'histoire?
Oui, bien sûr, c'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire et c'est un livre très, très profond d'histoire, parce que c'est pas seulement... Janek n'est pas seulement un historien qui raconte un fait, même tellement choquant que Jedwabne. Ça suffirait de raconter ce qui s'est passé à Jedwabne. Mais c'est aussi un essayiste de l'histoire, c'est-à-dire il montre une nouvelle perspective. Et ce qu'il a montré dans ce livre, et ce qui est exceptionnel, c'est que l'histoire du Holocauste peut être écrite du point de vue des victimes. Et c'est quelque chose de très, très nouveau. cette façon. Et moi, j'ai écrit mon livre parce que je voulais aussi écrire un livre du point de vue des victimes. Et maintenant, il me semble qu'il y a beaucoup de gens, de gens à l'université et au-dehors de l'université qui vont après Gross. Et c'est une toute nouvelle façon d'écrire l'histoire. Parce que, premièrement, l'histoire du Holocauste était écrite par, très souvent par des Allemands ou des gens qui connaissaient l'allemand sur les sources allemandes. Et c'était l'histoire de ceux qui ont perpétué le crime. Et Gross a changé la façon d'écrire l'histoire. On doit croire à ce que les victimes racontent. Enfin, les victimes qui ont survécu ou qui ont survécu pour un moment, donc quelque chose est resté, parce que souvent il y a du papier qui est resté, mais les gens ne vivent plus. On doit les écouter très attentivement, parce que c'est la vraie histoire qui est à raconter. On est extrêmement, les Polonais, nous sommes extrêmement centrés sur l'histoire. Donc l'histoire est peut-être même plus importante que le présent, certainement plus importante que le futur. Mais c'est certainement cette histoire qu'a raconté Gross et qu'après lui, nous avons commencé à raconter, est une histoire très difficile. Et comme le disait le maire de Jedwabne, il le disait sur les habitants de Jedwabne, si on a deux vérités et on peut choisir, et une est difficile et une est facile, bien sûr, on choisit cette vérité qui est facile. Et maintenant, ce gouvernement donne la possibilité de choisir, ou plutôt il implique une vérité qui est facile, c'est-à-dire les Polonais sont seulement des héros, s'occuper seulement de sauver les Juifs pendant la guerre. Et quelqu'un m'a raconté qu'il y avait maintenant, on a demandé aux élèves d'école, qu'est-ce qui s'est passé à Jedwabne? Ils avaient diverses réponses et la plupart a dit qu'à Jedwabne, les Polonais ont été brûlés dans la grange parce qu'ils ont aidé les Juifs.
Il est certain qu'il s'est passé quelque chose de plus grave que la loi, c'est que cette loi a levé certains tabous sur l'antisémitisme. Et de nombreux propos émaillent maintenant le discours polonais, public ou semi-public, qui libère la parole antisémite, ce qui n'avait pas été le cas maintenant. Et de cela, ce gouvernement est très largement responsable.
Il y a quelque chose qui s'est passé au moment de l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, puisque la Pologne était censée remodifier, réformer le système de l'éducation, c'est-à-dire introduire un enseignement antidiscriminatoire.
Elżbieta Janicka.
Et effectivement, entre 2000 et 2004, entre le débat sur voisins et cette entrée dans la communauté européenne, il y a eu des manuels scolaires qui ont été écrits. Mais en fait, ce qui s'est passé est que les premières élections après l'entrée dans l'Europe ont été gagnées par Droit et Justice, sous la bannière de répolonisation, voilà. Et l'une des décisions les plus importantes du nouveau Premier ministre a été de confier le poste de ministre de l'Éducation nationale à Roman Giertych, la personne qui a réactivé une organisation antisémite de l'avant-guerre, Młodzież Wszechpolska, les jeunesses polonaises, est fier de l'être. Et donc cet homme a bien, même pas stoppé ce qui était en cours, mais il a tout simplement n'a pas laissé ses manuels entrer en vigueur. Et en fait, il n'en a jamais été rien de l'éducation antidiscriminatoire. Je voudrais mentionner quelques jalons posés par Jan Gross. Et pourquoi on s'en souvient toujours et qu'est-ce qu'il y a dans son travail qui fait qu'on ne peut pas le digérer. Il a postulé la réécriture de l'histoire de Pologne en disant que jusque-là, on n'avait pas d'histoire de Pologne. Ce qu'on avait, c'était l'histoire des Polonais. Et donc, son postulat était l'intégration de l'histoire de tous les groupes qui ont habité le territoire de la Pologne, la réécriture de cette histoire commune qui est incompatible avec les mythes fondateurs de la Polonité, du roman national polonais. Donc Gross, en arrivant avec son livre en 2000, c'était quand même bien longtemps déjà après l'indépendance, il a rendu visible le fait que les élites et les historiens n'ont pas fait leur travail, puisque déjà sous l'ancien système, avant la chute du communisme, déjà les historiens et les élites et tout ça travaillaient déjà à une historiographie parallèle concernant Catherine, concernant les déportations, concernant beaucoup de choses, la guerre polono-bolchevique 1920, etc. Mais pour ce qui est du rapport des Polonais aux Juifs, puisque je n'accepte pas la catégorie des rapports polono-juifs, c'était pas des rapports, non, c'était pas des rapports, c'était à sens unique. Donc l'historiographie sur le rapport des Polonais aux Juifs, cette ancienne historiographie officielle, leur paraissait suffisante. Personne n'a travaillé là-dessus. Personne n'a travaillé là-dessus. Les gens dormaient tranquilles, je veux dire.
Polonais exilé aux États-Unis, Américain qui revient en Europe, Jan Gross continue de s'interroger et d'interroger. On le dit sociologue plus qu'historien, sa trajectoire traverse les disciplines pour replacer au centre le questionnement moral de cette histoire. Quand vous partez en 68, vous partez en tant que juif.
Tu sais, je quitte la Pologne en tant que juif, mais je ne me sentais pas juif. Je ne connaissais rien à propos de la religion juive. Je suis baptisé. Ma mère n'était pas juive, ça, du point de vue des juifs religieux. Je ne suis pas juif aussi. Mais en effet, on a quitté le pays en se déclarant comme juif qui voulait aller en Israël. C'était le processus. Et on nous a retirés.
Retirer le passeport, oui.
Le passeport, mais la citoyenneté. Nous quittons la Pologne. Tous les gens dans cette immigration quittent la Pologne avec un document qui dit le porteur de ce document n'est pas un citoyen polonais. Point.
Vous avez depuis récupéré la citoyenneté polonaise?
Oui,
Jan Gross est un homme d'intuition. C'est une qualité rare qui s'élabore chemin faisant. Il a commencé son travail, il le dit lui-même, à partir d'une réflexion sur la Deuxième Guerre mondiale en Pologne, sur l'État clandestin polonais.
Jean-Charles Chourek.
Sur cet État qui s'est forgé et qui a abouti à l'existence d'une administration clandestine, d'une armée clandestine, d'un appareil judiciaire, d'un appareil d'enseignement. Enfin, la Pologne a été une société durant l'occupation allemande extrêmement structurée. Ça a été une des résistances les plus puissantes d'Europe. Et il est parti de cette réflexion en 1980 pour réfléchir à la façon dont une société s'oppose au totalitarisme. C'était ça les questions de l'époque. Et il a trouvé des choses qui sont presque opposées à ce qu'il a étudié. Que cette société-là, elle a aussi des attitudes antisémites dans ce qui concerne les rapports avec les Juifs. Il est le premier, je crois, ou l'un des premiers à avoir découvert l'existence des rapports Karski. Vous savez que Karski a écrit deux rapports en 40, et le gouvernement polonais en exil a demandé à Karski de faire deux rapports. Un rapport, le vrai, tel qu'il existe, et un rapport où il va édulcorer les aspects précisément antisémites de la population polonaise qu'il a rencontrée, d'une façon à ne pas heurter la perception occidentale. C'est clairement explicité. Donc tout ça pour dire qu'en travaillant sur l'État polonais clandestin, il a rencontré ces choses-là. Et il a eu l'intuition de se dire, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'il faut regarder de plus près. Et il est tombé sur Jedwabne. C'est un peu un miracle, Jedwabne, parce que pendant 4 ans, ça dormait. Et puis à un moment donné, ça s'est mis en route dans sa tête. Mais qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois ce que je vois? Et c'est ça l'intuition. Et ça a aidé effectivement les autres chercheurs à aller sur les traces, y compris moi dans mon travail de terrain de la région de Loukov où j'ai travaillé. Je suis rentré sur les mêmes questionnements, je n'ai rien inventé.
Quelle est la raison de votre présence aujourd'hui à Berlin? Pourquoi avez-vous choisi cette ville comme lieu de résidence?
Je voulais déménager après 50 ans en Amérique et m'installer en Europe. Et comme Varsovie, il me semble, pour quelqu'un qui a vécu à New York, il aime très très bien. Varsovie est une ville qui est unie. Dimensionnel, pour ainsi dire. Il y a seulement en couleur blanc qu'on y voit, etc., etc. Même s'il y a beaucoup de mes amis qui habitent là-bas, j'ai pensé que Berlin est une place beaucoup plus amicale, pour moi. Amicale, on le dit.
Oui. Oui.
Mais je suis très content que je me suis trouvé ici.
Les voisins de Jan Gross, écho et dissonance. Avec Anna Bikont, Krzysztof Czerzewski, Paweł Dobrosielski, Jan Gross, Elżbieta Janicka, Paweł Marciewicz et Jean-Charles Chourek. Merci à Anna Smolar, Markus Nesselroth, Sławimir Sierakowski, Agnieszka Wierzcholska, Andrzej Nowak, Georges Mink, Irena Grudzińska-Gross, Agnieszka Grudzińska, Audrey Kiszelewski et Jean-Yves Potel. Traduction lue par Thierry Beauchamp. Prise de son Julien Calvas et Pierrick Charles. Mixage Julien Douminc. Réalisation Anne Fleury. Une émission de Johanna Grudzińska.
Demain, nous continuons notre série « Quand l'histoire fait scandale » et nous allons revenir avec son auteur sur le grand livre de Robert Paxton, publié donc en France au début des années 1970, « La France de Vichy ». Et nous sommes très heureux de recevoir dans la Fabrique de l'Histoire Robert Paxton pour en parler.